Bonjour à tous. Je vous sens bien sage. Ou plutôt, je pense discerner qu'est-ce qui vous fait être sur la réserve, comme ça vous êtes impatient, peut-être, de savoir qui sera champion du monde de foot. Oui ou non? Alors, il faut patienter quelques heures, et après, les dés seront jetés. Que le meilleur gagne. Ou alors, une autre sorte d'impatience. Qu'est-ce que je vais avoir sous le sapin comme cadeau? Non? Bon, mon sujet n'est pas l'un ou l'autre ce matin. Nous sommes dans la dernière ligne droite, c'est-à-dire nous sommes le dernier dimanche de l'Avent. Et qu'est-ce que nous allons voir pour ce dernier dimanche de l'Avent ? L'annonce, tout simplement, de la naissance de Jésus. Alors, tournons-nous vers le récit que nous fait Luc de cette annonce. Luc, chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 38, dont le titre est « Annonce de la naissance de Jésus-Christ ». Au sixième mois, alors au sixième mois de quoi? De la grossesse d'Élisabeth. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue ». Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Voilà comment l'annonce a été faite. J'aimerais, comme on dit, planter un peu le décor de l'époque. C'est-à-dire 2000 ans en arrière. Alors, je ne sais pas si parmi nous, il y en a qui ont fait un voyage en Israël. Oui ? Personne. Si ? Faut le dire. Oui. Bon, donc alors ce que je vais dire, vous allez pouvoir peut-être vous rappeler, ça va peut-être vous rappeler quelques souvenirs. En partant de Jérusalem, il faut plusieurs jours de marche, parcourir environ 150 km direction plein nord pour arriver dans un minuscule village de paysans. Et là, une jeune fille nommée Marie aide sa famille à tirer sa subsistance du sol galiléen dans un village pratiquement inconnu du nom de Nazareth, situé au fond d'une vallée entourée de montagnes. Maintenant, pour décrire cette annonce de la naissance de Jésus, il existe un mot que je me garderai bien de prononcer, c'est le mot « idéal ». Parce que, sans aucun doute, c'était loin d'être l'époque rêvée pour vivre dans cette région. Hérode le Grand s'était emparé du trône d'Israël et, une fois au pouvoir, il a fait preuve d'une telle cruauté pour conserver son titre de roi des Juifs. Puis, un peu plus tard, quand il apprit qu'un roi, des Juifs était né, il ordonna la mise à mort de tous les enfants mâles de la bourgade âgés de moins de 2 ans. Et c'est parvenu jusqu'aux oreilles de César Auguste qui, lui, siégeait à Rome. Et quand il entend dire ce qu'Hérode avait fait, qu'il avait ordonné de mettre à mort tous les garçons âgés de moins de 2 ans et que les fils, même de ses propres fils, comptaient parmi les enfants massacrés, il dit « Je préférerais être le porc d'Hérode qu'être son fils. » Voilà brièvement l'ambiance à cette époque. C'est la raison pour laquelle, plus tard, Nathanaël, quand il apprit que Jésus venait de Nazareth, il s'est exclamé « De Nazareth, que peut-il venir de bon ?» Je reviens au récit de Luc. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler ce que nous avons entendu des 3 derniers dimanches, c'est-à-dire nous avons entendu parler de 3 naissances. Samuel, Isaac et Jean-Baptiste. Ces 3 cas avaient un point commun, qui étaient des naissances désirées, attendues et des réponses aux prières des parents. Tandis que l'annonce de la naissance de Jésus, rapportée par Luc, c'est un tout autre mode opératoire, si j'ose dire. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'annonce de la venue de Jésus est faite. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas moins d'une 10aine de versets qui évoquent le sujet. Et notamment le prophète Ésaïe, où il y a au moins 3 ou 4 passages dans le livre d'Ésaïe qui font référence à cela. Et nous voyons que l'ange Gabriel est envoyé, qu'il a une mission à remplir. Et si nous nous souvenons bien de ce qui a été dit dimanche dernier, il est vrai que c'est ce même ange qui vient annoncer, qui se rend auprès d'Élisabeth. Un fils va naître pour Élisabeth et le fils de Dieu pour Marie. Il est vrai aussi qu'une même impossibilité de naissance existe pour les deux femmes. Élisabeth est stérile, d'un âge proscrit pour enfanter, ce qui la met dans la honte à cette époque. Marie, mais c'est pire encore. Elle est fiancée et être enceinte avant le mariage, c'est passible de rupture, de rejet et même de lapidation. Ça ne rigolait pas à l'époque. Certains peuvent se dire aujourd'hui, heureusement que je vis à notre époque, en 2022. L'ange Gabriel est envoyé encore une fois par Dieu pour délivrer le message le plus grand, le plus beau, qui n'ait jamais été confié à un ange. Gabriel accomplit sa mission avec zèle, avec fidélité. Alors il se rend à Nazareth, un village complètement inconnu, pour rencontrer une jeune fille de son prénom Marie, fiancée à Joseph, le charpentier du village, et il rend visite à Marie. Au fait, pourquoi elle et pas une autre? Une paysanne à laquelle une grâce a été faite. Pour quelle raison? À cette époque, aucune grâce extraordinaire n'était accordée aux adolescentes. Avant qu'elle ait eu le temps de l'interroger davantage, l'ange poursuit, c'est-à-dire déroule ce qu'il a à lui dire, comme s'il avait peur d'oublier quelque chose, un détail. « Ne crains point, Marie, parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Après des siècles qui a sans doute été ressenti comme un silence de la part de Dieu, Marie apprend la nouvelle qu'elle deviendrait la mère du Messie. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est Dieu qui décide le nom de cet enfant. Après des siècles, comme j'ai dit, c'était un silence et voici d'un seul coup. Mais bien sûr qu'en Israël, chacun attendait cette venue du Messie. il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Il régnera comme son père David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin, et nous pouvons dire qu'il traversera tous les temps. L'ange Gabriel s'adresse à Marie, naturellement vierge avant le mariage, comme de coutume en ce temps-là. Et alors vient la question de Marie. Parce que Marie, elle réfléchit quand même. Marie dit à l'ange, « Mais comment cela peut-il se faire puisque je ne connais point d'homme ?» En fait, si elle connaît un homme, elle connaît au moins son fiancé. En fait, il faut dire que dans la Bible, quand elle employait le mot « connaître », c'était dans le sens de la connaissance intime, en un mot, pour désigner des relations sexuelles. Marie avait assez de connaissances sur la sexualité pour savoir qu'elle ne pourrait concevoir qu'après sa première nuit passée avec Joseph, son mari. D'où sa question toute logique. Comment une vierge sera-t-elle en mesure d'avoir un enfant ? Comment cela peut-il se faire ? C'est une question logique. Marie ne met pas en doute la parole de l'ange, mais elle demande des explications sur le comment. Comment cela se produira ? Parce qu'elle sait bien qu'elle est seulement fiancée à Joseph. Elle ne cohabite pas avec son fiancé. Chacun vit séparément. Et alors ? On remarque que Marie ne doute pas, puisqu'elle dit au verset 34 « Comment cela se fera-t-il » Oh, elle aurait pu donner un tas d'excuses. Mais tu réalises, là, Gabriel, en fait, je ne sais pas si elle connaissait son nom, mais tu réalises dans quelle situation tu me mets. Je ne suis que fiancée. La réponse de l'ange a dû la surprendre. Le Saint-Esprit sera le géniteur, le créateur. Le rappel de l'expérience d'Élisabeth va aussi aider Marie à conforter sa foi, car si Marie avait dû annoncer sa grossesse à Joseph, l'adultère était fortement puni. Et souvenons-nous, lorsque Joseph et Marie étaient enfants, ils ont fréquenté le CBJ. La loi de Moïse était enseignée. Exode 20, verset 14, « Tu ne commettras point d'adultère. » Joseph a le droit de porter l'affaire devant les autorités religieuses et que Marie soit condamnée selon la loi. Quelle loi ? Lévitique 20, verset 10, « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée ou fiancée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme seront punis de mort. » Deutéronome 22, versets 23 et 24. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. Mais nous savons que Matthieu 1, verset 19, qui rapporte cet épisode, mais sous un angle un peu différent, rapporte que par délicatesse, Joseph ne veut pas exposer publiquement ce qu'il pense être une infidélité préconjugale avant que Dieu ne lui explique l'histoire. Mais je reviens à Marie, au verset 35. L'ange répond à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » L'ange utilise cette expression « la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ». L'ange utilise ici une image connue de tout Hébreu. Après que Moïse ait conduit le peuple d'Égypte, l'Hébreu hors d'Égypte, il reçut les instructions de Dieu pour la construction d'un tabernacle, c'est-à-dire une maison mobile d'adoration. Et lorsque la construction a été achevée, Dieu couvrit la tente et le peuple fut à même d'observer une lueur surnaturelle sous la forme d'une nuée. Exode 30, verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Ceci pour expliquer la présence spirituelle de Dieu qui allait concevoir miraculeusement un enfant de sexe masculin chez elle. L'enfant serait un homme à tous égards, mais n'aurait pas de père humain. Son père serait littéralement le Dieu Tout-Puissant. D'ailleurs, certains commentateurs diront qu'il est venu tabernacler au milieu de nous afin de devenir celui qui demeure toujours avec nous. Maintenant, écoutons la réponse de Marie au verset 38. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ça veut dire je me mets volontiers et de manière inconditionnelle au service de mon Seigneur. Et quant à nous, pour nous, que pouvons-nous retenir pour nous-mêmes? D'abord, Marie a reçu la parole de l'ange. Elle a accepté ce premier plan qui est la parole. Elle a accepté que le projet de Dieu passe avant le sien. Elle est dans une obéissance totale, je dirais même un abandon. Et qu'en est-il de nous, de nous-mêmes, de moi-même? Acceptons-nous la parole que Dieu nous a donnée? Ou voulons-nous d'abord l'adapter à notre avantage ou à notre point de vue? Marie ne connaissait pas la suite. Et pour nous, aujourd'hui, suivre le Seigneur, c'est aussi accepter de ne pas voir tout de suite le résultat. C'est cela l'engagement. Et cela passe souvent par la dureté au début, mais nous pouvons expérimenter sa grâce et son secours. Et puis, deuxièmement, la foi de Marie. Marie, dans sa foi, et grâce à cette parole reçue au premier plan dans sa vie, accepta et s'engagea au point de faire table rase de son ancien projet de vie et de faire un saut dans le vide et dans la confiance. Et elle fit le choix de se mettre elle-même au deuxième plan. Elle n'a aucune garantie de la suite. Elle ne sait pas de quoi demain sera fait. Bon, nous, on a un avantage, c'est parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Marie ne la connaissait pas du tout. Comme Marie, Dieu veut nous révéler ce qu'il a pensé, imaginé, prévu pour chacun de nous. Il veut nous faire connaître notre véritable identité et son plan pour notre vie. Et nous pouvons entendre Dieu dire ceci de toute éternité. J'ai pensé à toi et je t'ai aimé. J'ai prononcé ton nom en te disant quelle est ma volonté et je te révèle qui tu es vraiment. Ma volonté, dit-il, n'est donc pas une volonté imposée, contraignante, mais la révélation de son projet conçu dans son amour pour nous. Aujourd'hui, nous sommes souvent dans l'immédiateté, mais avec le Seigneur, il n'en est pas ainsi. Cependant, pour que son dessein, son projet s'accomplisse pleinement, Dieu demande mon accord et le tien, comme il l'a demandé à Marie. En fait, c'est la condition pour que se réalise la parole qu'il a prononcée sur toi et sur moi. Et puis, troisièmement, il y a l'engagement de Marie. Nous sommes alors appelés aussi à dire, comme Marie, que tout se fasse pour moi, comme tu me l'as dit. Bien sûr, sa volonté n'est pas toujours facile à discerner. Nous devons nous aussi demander des éclaircissements pour comprendre ce que Dieu veut. Combien de fois j'aurais souhaité que, par exemple, au début de la matinée, en prenant mon café, que Dieu m'envoie un SMS ou même un email pour me dire « Voilà, aujourd'hui, voilà ta feuille de route ». Oh là là, ça... Combien... Alors là, j'aurais vraiment été soulagé. Mais non, il faut aussi faire tourner la matière grise qui nous a été donnée. C'est... Ça tombe pas comme ça du ciel. Bon, je sais qu'il y en a qui sont branchés 5 sur 5. Moi, ce n'est pas mon cas. On est encore sur Terre. Donc, ce n'est pas toujours facile de découvrir la volonté de Dieu à notre sujet. Il faut écouter attentivement, sincèrement, sa voix en nous, en demandant même conseil si cela nous semble nécessaire à quelqu'un qui a les capacités de nous aider. Mais une fois sa volonté comprise, disons oui tout de suite, car si nous avons compris que sa volonté, c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus beau pour notre vie, alors ne nous résignons pas à devoir faire la volonté de Dieu. Mais nous serons au contraire heureux de pouvoir la faire, de pouvoir coopérer à son projet pour que se réalise ce qu'il a pensé pour nous. Alors, que ces paroles, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit », soient donc notre réponse d'amour à l'amour de Dieu. Qu'elles nous maintiennent toujours tournées vers lui, à l'écoute, dans une attitude d'obéissance, avec l'unique désir d'accomplir sa volonté pour être comme lui le désire. Pourtant, ce qu'il nous demande peut parfois nous sembler insensé, incompréhensible, illogique. C'est ce qu'a vécu d'ailleurs Marie. Nous estimerions parfois préférable d'agir autrement, voire de prendre nous-mêmes notre vie en main. Nous aurions même parfois envie de donner des conseils à Dieu, et pourquoi pas, de lui indiquer ce qu'il faut faire ou ce qu'il faudrait éviter. Mais si je crois que Dieu est amour, et si je lui fais confiance, je crois que ce qu'il a prévu pour ma vie et pour celle de ceux qui m'entourent, c'est pour notre bien. Alors, je m'en remets à lui, je m'abandonne pleinement à sa volonté et je la désire de tout mon être jusqu'à ne plus faire qu'un avec elle, sachant qu'accueillir sa volonté, c'est accueillir Dieu, les bras grands ouverts. Tout événement, circonstance, personne nous porte un message de la part de Dieu. Tout contribue à l'accomplissement de son dessein, que nous découvrirons peu à peu, jour après jour, en faisant comme Marie la volonté de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Je suis le serviteur du Seigneur, que tout se passe pour moi comme il l'a dit. Notre oui à la parole de Dieu signifie concrètement bien faire à chaque instant ce que Dieu nous demande. Être pleinement dans cette action, en éliminant tout le reste, en abandonnant nos propres pensées, désirs, souvenirs, en amour, tout. Si nous ne donnons pas tout au Seigneur, nous donnons rien du tout. Devant chaque volonté de Dieu, douloureuse, joyeuse ou indifférente, nous pouvons à notre tour dire que tout se passe pour moi, comme tu l'as dit. Ou bien, comme Jésus nous l'a enseigné dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. Et nous accomplirons instant par instant, petite pierre par petite pierre, le merveilleux et unique puzzle de notre vie que le Seigneur a conçu depuis toujours pour chacun de nous. Avant de terminer, j'ai encore cette pensée. Je reviens à la fin du récit. Juste avant que Gabriel prenne congé, il annonce « Ta cousine Élisabeth, qui était stérile, est enceinte de 6 mois. Pourquoi ?» Donc, c'était impossible pour elle, c'est aussi impossible pour Marie, mais rien n'est impossible à Dieu. ne vous attendez pas à ce que je vous explique le surnaturel. Je ne peux pas le faire. Et si quelqu'un se hasarderait à vous expliquer comment Marie est devenue enceinte par le Saint-Esprit, c'est quelque chose, on n'explique pas le surnaturel. Par contre, nous, chrétiens, c'est naturel de croire au surnaturel. Non ? Donc, il faut, c'est là qu'intervient la foi. Voilà une annonce que Marie n'attendait pas. Et aussitôt, Marie réagit à cette parole. Elle rassemble ses affaires et part en toute hâte voir sa cousine. Selon la tradition, Élisabeth et Zacharie habitaient à Aïn Karim. Ça ne vous dit peut-être rien. Or, je vais vous donner une info. Ça se trouve dans les montagnes de Judée, à 6 km à l'ouest de Jérusalem. Si vous y allez, vous pourrez vérifier. Donc, je rappelle, Nazareth-Jérusalem, c'est 150 km. Donc, ça veut dire que Marie, elle a fait son baluchon et elle a fait 150 km. Ce départ en toute hâte témoigne de sa simplicité, de la spontanéité de son obéissance et de son entière disponibilité. Dans ce déplacement, ce mouvement, la parole, l'annonce de la bonne nouvelle commence à faire son chemin. Je peux même dire qu'elle est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui, cette parole. Quant à nous, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous dire en ce Noël 2022? Certains peuvent penser, oh, encore un Noël de plus, allez, je vais encore me barber à entendre toutes ces histoires de Noël. Non, c'est un autre Noël. C'est un Noël différent des autres. Nous, chacun prépare Noël. Plusieurs partiront voir de la famille, des amis, des voisins. Nous apporterons peut-être des cadeaux. Dieu nous a fait un beau cadeau en nous donnant Jésus. Est-ce que nous annoncerons ce cadeau aux autres? Est-ce que nous demanderons, as-tu préparé la crèche? Veux-tu venir au culte de Noël avec moi dimanche 25 à 10h30? Est-ce que nous veillerons à ce que personne ne reste seul ce jour de Noël? Nous pouvons dire aux autres, Jésus est venu pour toi aussi. C'est une belle annonce à leur faire, d'une manière ou d'une autre. Chacun vit, chaque vie, je dirais, est une scène sur laquelle se rejoue l'histoire de Nazareth. Mais heureusement, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Dans sa grâce, il est volontairement devenu l'un des nôtres, en la personne de Jésus. Pour terminer, je voudrais appeler les musiciens à venir déjà, se préparer. Encore une semaine à attendre pour célébrer Noël. Gardons dans notre cœur que l'annonce de la naissance de Jésus était accompagnée de pardon, de foi, de joie, de paix et de justice. Amen. Et je souhaite un joyeux Noël à tous. Encore un peu de patience.